VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir et ravi de vous retrouver en ce vendredi 6 novembre 2015. Morgane Guiriec et Jacques Aristide avec vous pour une demi-heure d'infos et de décryptage de l'actualité. À la une ce soir, Jacques.
Au Burundi, le fils d'un célèbre défenseur des droits humains retrouvé, assassiné, alors que le pays se dirige vers une nouvelle guerre civile, selon une ONG.
Le gouvernement a émis un ultimatum de désarmement des rebelles, donc il y a un risque d'une confrontation violente.
Au Congo-Brazzaville, c'est enfin officiel. Les résultats du référendum sur la Constitution confirment le plébiscite du oui.
Également dans l'actualité, le président Obama entend supprimer la préférence commerciale pour les produits agricoles sud-africains.
Et crash d'avion en Égypte, une boîte noire confirme le caractère brutal et soudain de l'événement.
Et dans la partie magazine, Paul Biya fête ses 33 ans à la tête du Cameroun.
Il suffit de mesurer à travers toute l'étendue du territoire l'ampleur des réalisations.
Tous les chantiers sont abandonnés, sont en berne.
À venir également vos rubriques habituelles, la Minute Éco et le billet sportif, mais d'abord le journal.
Le Burundi, pour démarrer, un des fils du défenseur des droits de l'homme, Pierre Claver Bonimpa, a été retrouvé assassiné aujourd'hui à Bujumbura, quelques heures après son arrestation par la police, d'après sa famille et des témoins. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira dans 3 jours pour examiner la situation dans le pays. D'après le gouvernement français, les discours de haine menacent d'enflammer le Burundi. Washington dit également craindre une flambée de violence après l'ultimatum du président Pierre Nkurunziza aux rebelles. Il leur a donné jusqu'à demain, samedi, pour déposer les armes. Des habitants ont commencé à fuir à certains quartiers de la capitale où nous retrouvons notre correspondant Christophe Nkurunziza.
Willy Nzitonda, un des fils de Pierre Claver Mbonimpa, grand défenseur des droits de l'homme au Burundi, a été assassiné ce vendredi dans le quartier de Chibitoke, au nord de Bujumbura. Les sources de la population affirment que la police l'a retiré vers 9h GMT du quartier contestataire de Mutakura avec 4 autres personnes. Willy Nzitonda a tenté de quitter ce quartier pour se mettre à l'abri quand des policiers l'ont arrêté et conduit dans un endroit inconnu. Mercredi soir, 4 personnes avaient été assassinées par des insurgés, selon la police. Dans les quartiers de Mutakura et de Chibitoke, l'on avait enlevé le cœur d'une des victimes. Pascal Nshimirimana, le gendre du grand défenseur Pierre Claver Mbonimpa, avait été assassiné le mois dernier près de son domicile dans le quartier neuf de Ngagara. Pierre Claver Mbonimpa avait échappé à un attentat 24 heures après l'assassinat de l'ex-chef des services de renseignement Adolphe Nshimirimana les 2 août dernier. La violence a augmenté d'un cran depuis l'annonce du troisième mandat contesté de Pierre Nkurunziza, où plus de 200 personnes ont été tués selon les Nations Unies. 200 000 personnes ont fui et vivent dans les pays limitrophes. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Et nous reviendrons sur le Burundi tout à l'heure dans notre segment magazine, car une ONG voit se profiler à l'horizon une nouvelle guerre civile.
Résultat du référendum sur la constitution au Congo-Brazzaville, c'est le oui qui l'emporte à plus de 94% des suffrages exprimés d'après les chiffres définitifs annoncé par la Cour constitutionnelle. Un résultat contesté par l'opposition qui avait appelé au boycott du référendum. Rappelons que le nouveau texte permet au président Denis Sassou Nguesso de se représenter à la présidentielle de 2016.
Une annonce américaine qui provoque des grincements de dents en Afrique du Sud. Le président Barack Obama a informé le Congrès de son intention de suspendre l'application du traitement en franchise de droit à tous les produits éligibles dans le secteur agricole pour l'Afrique du Sud. C'est au titre de l'AGOA, la loi américaine sur la croissance et les opportunités en Afrique. La décision entrera en vigueur dans une 60aine de jours. Idrissa Seydoudia.
Dans sa lettre au Congrès, M. Obama a expliqué avoir pris cette décision parce que l'Afrique du Sud continue d'imposer plusieurs vieilles barrières au commerce américain, y compris des barrières affectant certaines exportations agricoles des États-Unis. Donc, elle ne fait pas des progrès continus vers l'élimination des barrières au commerce et aux investissements américains, conformément aux clauses de l'AGOA. Le président compte ainsi amener Pretoria à se conformer aux clauses de l'AGOA plutôt que d'éliminer l'Afrique du Sud de la liste des pays bénéficiaires en Afrique subsaharienne. Et puis, les Sud-Africains, estime M. Obama, continuent d'exprimer leur intérêt dans une solution aux soucis américains.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, les violences persistent au Proche-Orient. Un Palestinien de 23 ans a été tué par l'armée israélienne lors de heurts dans le sud de la bande de Gaza, à la frontière avec Israël. Le ministère de la Santé du mouvement Hamas, cité par l'AFP, affirme que cela s'est produit lors d'une journée de mobilisation à laquelle avaient appelé les mouvements politiques palestiniens. Par ailleurs, une Palestinienne de 72 ans a tenté d'attaquer à la voiture bélier des soldats israéliens dans la ville de Hébron, en Cisjordanie occupée. Elle a été tuée par balle par des militaires, d'après l'armée. À Hébron, toujours, deux adolescents israéliens ont également été blessés par les tirs d'hommes armés non identifiés.
Le point maintenant sur le crash en Égypte. Une des boîtes noires de l'A321 de la compagnie russe Metrojet confirme le caractère brutal soudain de l'événement qui a précipité la chute de l'appareil. Indiqué à l'AFP, une source proche du dossier, la Russie a ordonné aujourd'hui la suspension de ses vols vers l'Égypte, tandis que la Grande-Bretagne a commencé à évacuer ses ressortissants de Sharm el-Sheikh. La thèse de l'attentat semble donc de plus en plus probable. Claire Morin-Gébourg.
Même si la Russie reste prudente face à la thèse de l'attentat, le président Vladimir Poutine a ordonné la suspension des vols civils russes vers l'Égypte. Il a aussi chargé le gouvernement d'assurer le rapatriement des citoyens russes selon le Kremlin. L'hypothèse d'une bombe à bord avait été qualifiée de spéculation par Moscou, qui demandait, comme le Caire, d'attendre les résultats de l'enquête. Mais la Grande-Bretagne a pris les devants en commençant à évacuer ses ressortissants qui passaient leurs vacances à Sharm el-Sheikh. L'ambassadeur britannique en Égypte, John Casson, s'est exprimé depuis l'aéroport.
Notre objectif est de rapatrier autant de gens que possible très rapidement. Des vols continuent d'arriver, ce qui va nous permettre de rapatrier d'autres personnes plus tard dans la journée. Il s'agit d'un défi technique et logistique, puisque nous essayons de faire en sorte que les vols arrivent et repartent dans un aéroport bondé, en toute sécurité.
Selon l'aviation civile égyptienne, seuls 8 vols devaient être autorisés à commencer à évacuer vendredi les 20 000 vacanciers britanniques.
Guerre en Syrie, de violents combats ont opposé les forces du régime Assad au mouvement islamiste Anhar al-Sham. Conséquence, les djihadistes se sont emparés de la ville, récupérant ainsi toutes les localités prises par le régime syrien il y a un mois dans la province centrale de Hama. C'est ce que rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme cité par l'AFP.
Et cette nouvelle insolite, Morgane, le président vénézuélien Nicolas Maduro a promis qu'il se raserait la moustache si son gouvernement ne remplissait pas sa promesse de livrer 1 million de logements sociaux d'ici fin 2015.
Et nous restons en Amérique latine, dans le sud-est du Brésil. Les secouristes essaient de retrouver d'éventuels survivants d'un village englouti par une coulée de boue géante. Il y a au moins 17 morts et ce bilan risque d'être révisé à la hausse. Idriss Fall.
Bento Rodrigues a été totalement dévasté dans l'état de Minas Gerais, le cœur minier dans le sud-est du Brésil. Ce village comptait près de 600 habitants, la plupart employés de la compagnie minière Samarco. Le barrage de Fundão, large comme 10 terrains de football, retenait des boues toxiques de déchets miniers. Il a cédé hier, libérant une coulée de boue sur 2 km, 122 maisons ont été englouties et plusieurs voitures embourbées. Selon Adao Severino Junior, commandant des pompiers sur place, hier soir, il y avait 17 morts, au moins 50 blessés et une quarantaine d'habitants sont portés disparus. Ce matin, des bulldozers essayaient difficilement de dégager les routes obstruées et permettre le passage des véhicules avec quelques 200 secouristes. La présidente Dilma Rousseff a proposé l'aide de l'armée et la garde nationale brésilienne.
Une manifestation d'étudiants violemment réprimée en Turquie. La police a tiré des balles en caoutchouc et lancé des grenades lacrymogènes sur les quelques 200 étudiants réunis devant l'université d'Istanbul. C'est ce que rapporte l'AFP.
Course à la Maison-Blanche, coup dur pour le candidat républicain Ben Carson. D'après le site internet Politico, le neurochirurgien noir a menti concernant son admission à l'Académie militaire de West Point, une des plus prestigieuses écoles militaires des États-Unis. Une porte-parole de West Point, que cite Politico, a dit que l'institution n'a aucune trace d'une candidature de Carson. L'équipe de campagne du candidat a reconnu qu'il s'agit d'une histoire fabriquée.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Le Burkina Faso a commencé à mettre en œuvre un projet agricole dans 4 régions grâce à un appui de plus de 2 milliards de francs CFA de la FAO et du Fonds pour l'environnement mondial, rapporte l'APA. Il concerne les régions du Sahel, du centre-nord, du centre-ouest et de l'est. Le projet de sécurité alimentaire vise à renforcer la capacité du secteur agricole en adaptant les pratiques et les stratégies au changement climatique. Le groupement interpatronal du Cameroun va organiser le 11 novembre à Douala une rencontre sur la protection de l'industrie nationale. Après avoir constaté que le niveau des importations augmente beaucoup plus vite que celui des exportations, d'où un déficit croissant de la balance commerciale, le JICAM souhaite attirer l'attention du gouvernement sur l'ouverture commerciale, estimant que le financement extérieur de l'économie locale va en s'aggravant. La firme italienne Eni dit avoir fait une nouvelle découverte d'hydrocarbures dans son bloc exploratoire Marine 12 au large des côtes de la République du Congo et à 3 km de son champ de pétrole, rapporte Financial Afrique. Ce bloc est détenu à 65% par Eni Congo, 25% par le britannique New Age et 10% par la SNPC, la Société Nationale Congolaise.
La Minute Éco, merci Nathalie.
Vous l'avez compris, il est évidemment l'heure maintenant des sports et Bagassi Koura nous a rejoint. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Alors pour démarrer, Coupe du Monde des moins de 17 ans, le Mali et le Nigeria en finale.
Oui, les Maliens ont battu hier soir en demi-finale la Belgique par 3-1. Ce sont les Belges qui ont été les premiers à ouvrir le score à la 16e minute par Rigo. Les buts maliens ont été l'œuvre de Boubacar Traoré à la 22e minute et de Sidiki Maïga à la 55e. Et Sekou Koïta a aggravé la marque à la 85e. C'est la première fois que les Aiglons arrivent en finale de cette catégorie. Ils devront affronter dimanche en finale les tenants du titre nigérian qui se sont eux qualifiés au terme d'un match explosif. Les Golden Eaglets, comme on les appelle, ont une nouvelle fois impressionné face à des Mexicains qui ont eux aussi signé une belle prestation. Les Nigériens ont fait la différence dans les 25 dernières minutes de jeu et ont fini par s'imposer 4-2.
Football encore et le nouveau classement de la FIFA.
Oui, et petite révolution, l'Algérie n'est plus la première nation africaine du foot. Après avoir mené la danse pendant près de 18 mois, les Fenech ont cédé leur place au numéro 1 continental, les éléphants.
Et aujourd'hui, c'était la 8e étape du Tour du Faso.
Oui, une étape entre Bobo Dioulasso et Dedougou, remportée par l'Érythréen Mekseb Debesé. Debesé a parcouru les 174,5 km, la plus longue étape de ce tour, en 4h06 minutes 41 secondes, à la vitesse moyenne de 42,443 km/h. C'est la 5e victoire d'étape pour l'Érythrée. Le Marocain Mouchine Lahseni reste leader au classement général depuis la 2e étape.
La NBA pour terminer, Bagassi.
Eh bien, Oklahoma City s'incline à Chicago, 98-104, grâce à 29 points de Derrick Rose, l'ancien MVP des Bulls. Les 33 points de Kevin Durant n'ont pas suffi aux Thunder. Miami se reprend et bat à l'extérieur Minnesota, 96-84. Décidément, les Charlotte Hornets sont en forme. Victoire à Dallas, 108-90.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et vous êtes toujours branchés sur VOA Afrique, émettant de Washington. Morgane Guiriec et Jacques Aristide avec vous. Nous abordons la seconde partie du Monde aujourd'hui et cap d'emblée sur le Burkina Faso.
Où 25 000 membres des forces de défense et de sécurité seront chargés de veiller au bon déroulement du premier processus électoral post-Blaise Compaoré, à la veille de l'ouverture de la campagne pour le scrutin présidentiel prévu ce dimanche. Le ministre délégué à la sécurité a fait le point du dispositif mis en place pour sécuriser le pays et les candidats engagés dans la course. Depuis Ouagadougou, le reportage de notre correspondant Issa Napo.
Le gouvernement burkinabé entend trouver la stratégie parfaite pour faire face à de nombreux défis sécuritaires que traverse le pays à l'orée de l'ouverture de la campagne pour le double scrutin présidentiel et législatif. Défis qui s'appellent menaces djihadistes, mais aussi la trentaine de militaires expérimentés de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, encore dans la nature et qui constituent un danger après le putsch manqué du 16 septembre dernier. Pour le ministre délégué à la sécurité, qui a bouclé un conclave avec les têtes pensantes du dispositif sécuritaire et rencontré ce matin les différents candidats à la présidentielle, il y a matière à être rassuré, Alain Jean-Claude Zagré.
Je suis particulièrement confiant qu'au soir du 29 novembre, chacun de nous pourra aller voter, même torse nu. Pour ces élections-là, il y aura au bas mot 25 000 personnes engagées dans la sécurité. Je peux vous assurer que ça va bien se passer. Et ça va être la première fois au Burkina Faso où l'État va prendre en charge la sécurité de tous les candidats à la présidentielle. Chacun d'eux aura une garde rapprochée et aura une garde à son domicile.
Le dispositif sécuritaire tissé sur l'ensemble du territoire et aux frontières est chapeauté par le chef d'état-major de la gendarmerie, le colonel Tchouandaba Marcel Koulibaly, est confiant quant au plan mis en place et aux hommes engagés pour déjouer d'éventuelles actions de fauteurs de troubles.
Nous avons une coordination au niveau national qui est composée de 6 sous-commissions, 3 coordinations au niveau des régions de gendarmerie, 13 postes de commandement opérationnel au niveau donc des régions administratives et 45 postes de commandement opérationnel au niveau des provinces. À cela donc, il faut ajouter le renforcement du dispositif de surveillance et de protection des frontières. Et nous prenons en charge tous les types de menaces. Le fait qu'il y ait encore certains éléments de l'ex-RSP qui ne répondent pas à l'appel, nous prenons tout cela en compte.
Aucun chiffre n'a été avancé sur le coût que nécessite cette opération destinée à sécuriser le processus électoral qui s'ouvre ce dimanche et ces millions d'électeurs qui seront appelés dans les urnes pour choisir leurs députés, mais aussi le président qui aura la lourde tâche de diriger le Burkina Faso, pays qui connaît sa première consultation électorale la plus ouverte depuis longtemps au pays des hommes intègres, après la chute de Blaise Compaoré, qu'il a dirigé d'une main de fer, 27 ans durant. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Et nous vous en parlions un peu plus tôt, la situation au Burundi inquiète. Pour l'International Crisis Group, le pays risque de sombrer dans la guerre civile et les massacres après 6 mois d'une crise politique émaillée de violence. Crise provoquée, et souvenez-vous, par le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Plus de 200 personnes ont été tuées depuis avril dernier. Le centre de réflexion a émis aujourd'hui ce qu'il appelle une alerte conflit. Éric Manirakiza a joint Thierry Vircoulon, chercheur à l'International Crisis Group.
Le risque, c'est qu'il y ait des violences de masse et de grande ampleur, puisque le gouvernement a émis un ultimatum de désarmement des rebelles qui arrive à expiration ce samedi, le samedi 7. Et donc, il y a un risque d'une confrontation violente dans Bujumbura entre la police et les insurgés.
Vous parlez aussi des massacres à grande échelle. Quels sont les indicateurs ?
Les indicateurs, c'est le fait que tous les matins, on retrouve un certain nombre de cadavres dans les rues de Bujumbura. Ça, c'est le premier indicateur. Le deuxième indicateur, c'est le fait qu'il y a déjà eu des assassinats et tentatives d'assassinat de personnalités importantes au Burundi depuis ces derniers mois. Et puis, le troisième indicateur, ce sont des attaques par des groupes, des gens armés sur certaines positions des forces de sécurité. Et l'autre indicateur, c'est le fait qu'il y a maintenant plus de 200 000 Burundais qui se sont enfuis de leur pays depuis le mois de mars.
Pourtant, le gouvernement parle d'exagération. S'agit-il d'une négation de la part de Bujumbura ?
Tout ce dont je viens de parler, ce sont des faits. Donc en effet, si le gouvernement est dans une politique de déni en disant que la sécurité règne sur le territoire... D'ailleurs, je ne pense pas qu'il dise ça. Il a dit ça à un moment, mais après avoir dit il n'y a pas de problème de sécurité au Burundi, maintenant, il lance un ultimatum aux insurgés. C'est bien la preuve qu'il considère qu'il y a un danger.
Comment analysez-vous le comportement de la communauté internationale s'agit-il d'une négligence ou elle est carrément impuissante pour trouver une solution sur le Burundi ?
Elle a été active depuis le début de la crise électorale. Après, malheureusement, elle a été dans une situation d'impuissance parce que le gouvernement burundais a décidé de continuer sur sa trajectoire et n'a écouté aucun avertissement et va continuer d'ailleurs, à mon sens, à n'écouter aucun avertissement puisque maintenant il s'est complètement radicalisé et il est dans une logique d'isolement sur le plan diplomatique.
Thierry Vircoulon, chercheur à l'International Crisis Group, joint à Paris.
En République centrafricaine, le réarmement des forces armées centrafricaines, les FACA, continue d'alimenter la polémique. La mesure souhaitée par la présidente de transition a été critiquée par les rebelles de l'ex-Séléka, mais le gouvernement persiste et signe en invoquant l'insécurité endémique dans le pays. Pascaline Magalé s'est entretenue avec le ministre centrafricain de la Défense, Joseph Bindoubi.
Il n'y a pas d'accord qui a supprimé les FACA. Les FACA n'ont jamais été supprimés. Les FACA ont existé, ont mené une guerre, ont été attaqués par des forces de la coalition Séléka et Séléka a réussi de la rébellion à parvenir au pouvoir. Donc la communauté internationale s'est rendue compte que les forces qui sont arrivées au pouvoir sont des forces irrégulières. Et donc la communauté internationale a mis ces forces qui sont arrivées au pouvoir sous embargo. Mais malheureusement, pour ceux qui sont arrivés au pouvoir, leur gestion de la chose publique a été de telle nature que le pays n'en voulait plus. Ce qui fait que le président Djotodia a dû démissionner. Son intérim a été assuré par le président du Conseil national de transition pendant 15 jours et des élections ont été organisées au suffrage universel indirect et celui candidat, Madame Samba Panza, a été déclarée élue au premier tour chef d'État de la transition. Donc, il s'agit d'un nouveau régime. Elle a pris le pouvoir. Elle a rétabli les forces armées centrafricaines qui avaient effectivement, comme toute armée, subi une défaite, mais qui devaient s'en remettre. Mais malheureusement, dans l'interprétation des faits qui sont arrivés, l'embargo qui était imposé aux forces négatives qui étaient arrivées au pouvoir ont été imposés, malheureusement, à l'État centrafricain tout entier, y compris les forces armées centrafricaines. Donc, depuis un moment, la République centrafricaine a lutté pour expliquer au comité de sanctions que ce pays ne peut pas rester sans son armée et qu'il fallait lever l'embargo. Cette armée est la mieux indiquée pour protéger la population qu'elle connaît très bien. Les forces internationales, dans cette action de maintien de la paix, ayant montré quelque part leurs limites.
Mais comment allez-vous impulser la collaboration avec la MINUSCA et les forces sangaristes par rapport à ces grands défis ?
La MINUSCA et les forces de l'opération sangariste sont venus en République centrafricaine par rapport aux résolutions en appui des forces armées centrafricaines. Le problème, c'est une question d'interprétation. Il n'y a pas un conflit entre la MINUSCA et les forces de la Sangaris. Quand une mission des Nations Unies vient dans un pays, la mission des Nations Unies ne vient pas faire disparaître le pays. Elle vient faire en sorte que les manquements qui avaient été constatés soient levés pour que le pays se remettre dans le cadre des nations.
Joseph Bindoumi, ministre centrafricain de la Défense, joint à Bangui.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Cela fait 33 ans que Paul Biya est à la tête du Cameroun. Les militants de son parti lui demandent déjà de briguer un nouveau mandat présidentiel en 2018. Mais l'opposition veut que le chef d'État de 83 ans s'y abstienne. De Yaoundé, le reportage de notre correspondant Moki Edwin Kinzeka.
Les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, les partis au pouvoir au Cameroun, chantent des louanges pour leur président Paul Biya. 6 novembre 1982, 6 novembre 2015, cela fait 33 ans que Paul Biya est à la tête de la République du Cameroun. Selon les membres du RDPC, les partis au pouvoir, c'est 33 ans du renouveau, de grandes ambitions et de grandes réalisations. Le professeur Jacques Famindongo, membre du bureau politique du RDPC, retrace le bilan du président Paul Biya.
Nous pouvons citer, sans être exhaustif, les écoles maternelles et primaires, les instituts universitaires publics et privés, les centres de santé et les hôpitaux, l'électrification urbaine et rurale, les adductions d'eau. Il promeut le développement économique, social et culturel de toutes les régions du Cameroun, sans favoriser une seule.
Bilan que l'opposition n'approuve pas. Pour elle, le Cameroun était déjà émergent quand Paul Biya arrivait au pouvoir, selon Alima Mbarga, membre du parti de l'opposition SDF.
Il faut savoir qu'en 1982, le Cameroun était un pays émergent. Parce qu'avec un taux de croissance de 7%, le Cameroun était un pays à revenus intermédiaires. Il tutoyait et faisait même l'objet de l'envie de ceux qui sont devenus en tout temps les dragons et les tigres en Asie. Tous les chantiers sont abandonnés, sont en berne. Que ce soit la moralité publique, que ce soit la justice, que ce soit la démocratie.
Malgré tout, le RDPC reste égal à lui-même, selon Claire Bendovol, responsable du RDPC.
Aujourd'hui, nous pouvons apprécier le taux de croissance qui évolue, l'ouverture des grands chantiers, des plans d'urgence mis sur pied par le chef de l'État, la croissance dans la réalisation du budget d'investissement. Sur le plan politique, l'avancée démocratique, la transparence dans les élections, l'introduction de la biométrie dans le processus électoral, la bonne gouvernance dans la gestion de la chose publique.
Qu'à cela ne tienne, les gâteaux d'anniversaire se partagent sous une ambiance de recueillement pour les Camerounais morts à Mina, en Arabie Saoudite, et les victimes de la secte terroriste Boko Haram. Moki Edwin Kinzeka, VOA Afrique, Yaoundé.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, reggae music, reggaeton bien sûr, pour les amis qui adorent aussi la salsa. Et aussi, nous allons continuer avec notre sujet de cette semaine. Vos points de vue dans RM Show, envoyez-nous aussi vos réactions par SMS au plus 225-58-92-8540. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-31-40. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, c'est fini. Lionel Gaïma était à la réalisation. Au nom de toute l'équipe, nous vous remercions de votre fidélité et vous souhaitons un excellent week-end. Jacques Aristide et Morgane Guiriec dans la capitale américaine.
Et voilà, ainsi va Le Monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24. Take care.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.